Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, présentée par Thierry Paco, philosophe de l'urbain.
Bonne année nouvelle, décovidée, résolument urbaine, rêveuse, audacieuse et émeuse. Au menu d'aujourd'hui, l'éditorial des villes pour les enfants, la belle rencontre avec Chiara Santini, le sujet qui fâche, la nuit urbaine, un autre jour, avec Luc Diavinsky et Roger Narboni.
Urbanité, l'édito.
Des enfants crient, rient, chantent, c'est la récréation dans l'école qui donne sur la rue. Où sont-ils avant et après la classe? Je n'en vois jamais sur les trottoirs, rarement quelques-uns dans la piteuse aire de jeu du parc de la mairie, sorte de parking à enfants, surveillé par une maman ou une nounou accaparée par son cellulaire. Les garçons rigolent, en grappe au pied de leur immeuble, tandis que les filles jouent chez une copine avant d'aller chacun et chacune se scotcher devant son écran. Dans les grandes villes, les enfants sortent groupés ou bien se concentrent dans un square. Dans les lotissements pavillonnaires, ils sont encore plus isolés. Heureusement qu'il y a un trampoline et une tablette à portée du regard. Les villes, villages et bourgs les ignorent, ce sont les éternels oubliés. Ados, ils peuvent sortir, mais rien n'est vraiment prévu pour eux. Il est temps d'inventer la ville récréative. Depuis peu, saute suite au harcèlement ordinaire des femmes dans les lieux urbains, l'on admet que les villes ont été conçues par et pour les hommes. À cette dimension genrée, il convient d'ajouter celle de l'âge. Même si la Convention internationale des droits de l'enfant a été largement ratifiée par la majorité des États membres des Nations unies en 1989, à New York, il faut bien admettre que ni les petits ni les adolescents n'ont voix au chapitre. Certes, des activités parascolaires qui leur sont destinées se déroulent au stade, au conservatoire, au centre aéré, à la médiathèque, sous l'autorité d'un adulte toujours. Pour le reste, chacun se débrouille. Ce qui en soi s'apparente à une bonne chose, puisque toute formation repose sur l'auto-apprentissage. En effet, tout enfant grandit en lui-même par l'expérimentation. Il n'acquiert que ce qu'il éprouve. En cela, il se fait chercheur d'or, H-O-R-S, en s'enhardissant à explorer de nouveaux territoires et à tenter de nouvelles pratiques. Il sort de son corps, découvre sa chambre, le logement familial, ses à-côtés, l'école et le chemin qui y conduit. Tout est prétexte à jouer pour apprendre de soi et des autres. Le jeu s'avère essentiel à l'enfant pour déchiffrer le monde tout en lui révélant ses potentialités sensorielles, corporelles, mémorielles, intellectuelles. Ce n'est pas un hasard si les nouvelles pédagogies, qui à présent sont centenaires, Montessori, Dewey, Guedes, De Croly, Robin, Freinet, etc., accordent une telle place au jeu, à la répétition, l'imitation, la mémorisation, l'imagination, l'autonomisation, la ruse. Le jeu est sans pourquoi. Il fait le joueur tout autant qu'il conditionne le jouet. Tout enfant apprend en apprenant. Son livre de classe est la vie quotidienne, le spectacle sans cesse renouvelé de la rue, les rencontres, l'observation, la conversation, la promenade, les activités ordinaires qui deviennent extraordinaires justement par le jeu, souvent improvisé et avec des enfants d'âges différents. Ces pédagogies ouvertes misaient du reste sur la classe unique à effectif réduit. Ce ne sont pas les jeux qui sont pédagogiques, mais la manière dont les enfants se les approprient. Un jeu se révèle toujours pluriel, c'est ainsi qu'il surprend et qu'il entretient une éducation informelle, imprévue, involontaire. Tout territoire, ville, cité de banlieue, pavillon de périphérie, village, hameau, est apprenant. Et ce, quelles que soient ses qualités et ses défauts. Il représente l'environnement de chaque enfant, la nature grandement artificielle, avec laquelle il communique et à partir de laquelle il devient ce qu'il est. Plus son environnement est varié, bigarré, surprenant, original, fantaisiste, plus il vivra intensément. C'est dire à quel point le tracé des rues, les couleurs des façades, l'aménité du mobilier urbain, la luxuriance de la végétation, l'abondance amicale des arbres, la propreté des espaces publics, la qualité de l'air, la desserte commode des parcs et des jardins, l'accès direct au fleuve, le contrôle de la vitesse des automobiles et de leur stationnement, la présence des vitrines décorées, le va-et-vient des habitants, la réduction des nuisances sonores et autres pollutions, l'originalité des architectes, etc., participent au bien-être des enfants. La ville de Reggio, en Émilie-Romagne, adopte dès 1964 les recommandations de Loris Malaguzzi, qui pose la question « Qu'est-ce que les enfants peuvent faire pour la ville ?» L'enfant est citoyen à part entière, sa créativité se trouve sollicitée par les ateliéristes, jongleurs, danseurs, plasticiens, graphistes, informaticiens, marionnettistes, musiciens, qui sont en résidence dans les crèches et les écoles de la petite enfance jusqu'à la classe du lycée. Et renforcé par les études urbaines, des enquêtes urbaines, qui enrichissent sa connaissance directe et intime de son milieu de vie. L'observation et la documentation sont alors associées à l'exploration de la ville et à la collecte d'objets récupérés qui seront utilisés pour la représenter. Malaguzzi invente les 100 langues, celles des arts, celles des enfants d'origine culturelle différente et toutes les langues imaginaires. Il invente aussi la transgression pédagogique, la communauté éducative, l'autobiographie territoriale, car en cartographiant ma ville, j'apprends à situer ma famille, mes amis, les activités, mes sentiments et mes humeurs. La ville comme nature est lieu de tous les échanges. Bref, la ville se révèle être une école hors les murs, joyeuse et libre. Francesco Tonucci réalise une cité des enfants dans sa ville natale, Fano, et un musée des enfants à Rome. Il rassemble des propositions dans la Città dei Bambini, publié en 2002 et récemment traduit en français. Tous les deux s'intéressent aussi bien aux sciences cognitives qu'à l'esthétique. Ce sont les relations et interrelations qui sont privilégiées partout et pour tout, entre les humains et entre les humains et les non-humains. En 1991, quelques villes françaises se regroupent au sein d'un réseau français des villes éducatrices qui milite pour l'heureuse coordination des trois acteurs éducatifs que sont l'école, la famille et la cité. En 2002, à l'initiative de l'UNICEF et de l'Association des maires de France, 12 municipalités se déclarent chacune amies des enfants. Fin 2016, elles sont 208, plus 14 intercommunalités et 6 départements. En 1991, voit le jour l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, qui multiplie les actions citoyennes en faveur des enfants et doit réagir à deux freins, les adultes qui paternent les jeunes et leur communication à base de langue de bois. En 2015, un collectif regroupant la Rue de l'Avenir, Café Zoïde, Vivacité Île-de-France et Nanarège, ce fameux rassemblement des conseils municipaux pour enfants, lance un concours national, la rue aux enfants. Un jour par an seulement, une rue devient récréative, entièrement livrée aux enfants et à leurs jeux. Ce type d'initiative se tend à se généraliser un peu partout. Il est vrai que les enfants et les adolescents sont 16 millions en France et plus d'un milliard dans les villes du monde entier. Le document City Alive, sous la direction de Tim Gill, publié à Londres en 2017, recense toutes les actions à mener pour réaliser des villes agréables aux enfants et à tous et à toutes. En effet, une ville à taille des enfants comme Bâle et aux temporalités des enfants plaira à tous les promeneurs, aux personnes à mobilité réduite, à celles qui marchent ou font du vélo. Déjà, Bruxelles se dote d'un code de la rue qui vient compléter le code de la route et pacifier les relations entre automobilistes et piétons, sans oublier les motards, cyclistes, trottineurs et skateurs. Ne rêvons pas, tout ceci est embryonnaire et fragile. Il faut donc partout, dans la mégalopole comme dans la petite bourgade, limiter la vitesse mécanique, signaler des parcours ménagers pour les enfants, ouvrir des terrains d'aventure, favoriser des architectures scolaires adaptées aux enfants avec des lieux paysagers dédiés à la solitude et au silence et des cours de récréation qui ne soient pas des terrains de foot confisqués par les grands. Il faut constituer et réaliser une farandole verte qui relie tous les parcs et les jardins de la ville, les stades et les cimetières, faire participer aux décisions scolaires et municipales les enfants, leur donner le droit de vote à 12 ans, élargir les trottoirs, désimperméabiliser le sol et le planter, décorer la ville et y accueillir des artistes et y faire la fête. La ville récréative, entendue comme le royaume de l'enfance, conforte ce si beau pays que chacun abrite dans son cœur et qu'on rêve de toujours revisiter.
Urbanité, la belle rencontre.
Chiara Santini, historienne et géographe, professeure d'histoire des jardins et du paysagisme à l'École nationale de paysage de Versailles, vous venez de publier Adolphe Alphand et la construction du paysage de Paris aux éditions Hermann, qui paraîtra en librairie le 27 janvier prochain. Dans sa préface, Jean-Pierre Le Dantec s'exclame « Enfin !» Il se réjouit de cette biographie qui rend hommage à un ingénieur paysagiste qu'on a un peu trop oublié. Vous commencez votre ouvrage, du reste, par la mort d'Alphand en 1891, la même année que la disparition d'Haussmann. Il est né en 1817 et vous notez qu'il est bardé d'honneur. Comment expliquez-vous une si longue éclipse ?
Je l'explique par l'importance de la figure d'Haussmann. Alors, j'ai commencé par la fin de mon histoire, justement parce que c'est peut-être la fin de cette histoire qui m'a beaucoup frappée. quand Alphand décède, il y a des funérailles publiques très importantes. Et même une dizaine d'années après, quand on va l'inaugurer son monument sur l'avenue Foch, il y en a parmi les intervenants à cette inauguration qui disent un jour peut-être, à côté de la grande figure d'Alphand, on se souviendra de ce préfet de la Seine qui s'appelait Haussmann et qui a changé Paris. Et donc peut-être, grâce à Alphand, on reconnaîtra à Haussmann sa valeur. Alors, ce renversement des regards m'a beaucoup frappée, parce que l'histoire nous enseigne que ça n'est jamais arrivé. Donc, c'est exactement le contraire. C'est la figure d'Haussmann qui a complètement effacé celle d'Alphand. Et que ces Paris d'Alphand, finalement, on ne les connaît plus. Et on les réduit très souvent à une vingtaine d'espoirs qui auraient été réalisés au Second Empire.
Alors, effectivement, vous venez de nous le préciser que les trois terribles personnages ou fascinants qui ont transformé Paris à coups de hache, pour reprendre l'expression d'Émile Zola dans La Curée, le baron Haussmann, Eugène Belgrand et Alphand. Mais vous écrivez surtout, et c'est là où vous allez nous expliquer tout ça, que lui-même est entouré de fidèles avec qui il va faire cette œuvre collective, finalement. Alors, il y a Jean-Pierre Barillet-Deschamps, Joseph Lafourcade, Gabriel Daviou, Jean Darcel. Vous pouvez nous présenter ces quatre mousquetaires ?
Alors, la chose extraordinaire de cette équipe, c'est d'abord que c'est une équipe de techniciens qui travaillent ensemble tout au long de leur carrière professionnelle. C'est-à-dire quelqu'un comme Barillet-Deschamps, il reste pendant tous les Second Empire, mais quelqu'un comme Lafourcade, aujourd'hui parfaitement connu, alors qu'il était les premiers collaborateurs de Barillet-Deschamps, il est resté à côté d'Alphand 40 ans. Il est même resté à la ville de Paris 4 ans après le départ d'Alphand. Et on leur doit à cette équipe extraordinaire dans le sens hors de l'ordinaire tel qu'on pourrait l'imaginer aujourd'hui, parce qu'on attribue souvent à Alphand les dessins des jardins alors que ça n'en est rien, parce qu'Alphand était l'administrateur de cette équipe. Mais cette équipe se faisait par l'articulation de ces différents savoirs, d'un côté des paysagistes et des horticulteurs, de l'autre côté des spécialistes des plantes, des jardiniers, des architectes. On ne peut pas parler d'urbanisme parce que l'urbanisme, c'est une science qui, à cette époque, n'est pas encore, disons, stabilisée, formellement définie. Mais ensemble, ils ont fait la ville. Et cette vision un peu, si vous voulez, générale, avec une attention à l'ensemble, mais même au détail, fait toute la richesse, je trouve, de ces projets.
Alors, comment ils se comportaient entre eux ? Il y avait une hiérarchie ou au contraire, c'était un groupe de copains ? On a du mal à l'imaginer, du reste, hein, en lisant votre biographie, qu'Alphand soit vraiment l'homme qui vient dire « Ah, on va boire un café, on va discuter le coup. »
Non, Alphand, c'était un chef. C'était un chef. En 1886, quand il est nommé directeur général de l'exposition universelle, il y aura un journal qui dira s'il faut choisir une devise pour Alphand, on dirait « Je suis l'Alphand et l'Oméga ». Alphand est partout, Alphand est Paris. C'est même comme ça qu'il est défini le préfet de la Seine à la Troisième République. Alphand, il chapeaute son équipe. Donc, il a une vision totalement hiérarchique du travail de l'équipe.
Alors, on va peut-être revenir sur chacun d'eux. Jean-Pierre Barillet-Deschamps, bon, il est horticulteur et il va créer la pépinière de la Muette.
Oui, Jean-Pierre Barillet-Deschamps. Donc, en fait, c'est des gens qui se connaissent depuis Bordeaux. C'est une équipe qui se forme à Bordeaux d'abord qu'à Paris. Donc, parce que Haussmann, Alphand et Barillet-Deschamps, ils travaillent tous à Bordeaux dans le cas d'Alphand et Barillet-Deschamps pendant 15 ans. Et Barillet-Deschamps est appelé à Paris par Alphand et par Haussmann. Alors, il est horticulteur et paysagiste, donc celui qui invente ces modèles de jardins qu'on appelle les jardins modernes, sur lesquels bon, Louise Alimido a écrit une magnifique thèse au début des années 2000. Et Barillet-Deschamps, il fonde aussi cet établissement qui est l'un des établissements horticoles de la ville, la Muette, mais qui est, au-delà de l'établissement horticole, qui est un établissement qui garantit la gestion à régie de tous les végétales en ville, de façon à que la ville soit, à la fin, finalement, la commanditaire et les écoutrices de ces travaux. Ils fondent aussi une école, parce que l'idée, c'était de former au sein de la ville gratuitement, pour tous les jeunes qui les souhaitaient, une certaine compétence à l'aménagement du paysage, donc à l'aménagement des jardins, fait par la ville de Paris pour former un personnel nouveau, spécialisé dans l'espace public planté. Donc, à côté des barrières des champs, oui, son collaborateur et ami, du coup, c'est vrai, qui est Joseph Lafourcade, qui restera avec lui et restera dans l'administration municipale après le départ des barrières des champs, et qui est très intéressant de mettre en lien avec un autre grand paysagiste français, qui est Henri Duchesne, parce que, en fait, la fille de Joseph Lafourcade se mariera avec Henri Duchesne, qui était lui aussi dans l'équipe d'Alphand, et qui a été l'une des grandes féministes françaises, par ailleurs, j'aime bien les rappeler. Et après, là, c'est toute une lignée d'autres paysagistes, donc les Duchesne avec Achille, qui fondent cette nouvelle école, qui est une école qui réinvente les formes du jardin français.
Et Daviaud, alors lui, on le connaît tous, parce qu'on a donné des rendez-vous amoureux devant je parle pour les Parisiens, devant la Fontaine Saint-Michel, mais il a aussi réalisé la caserne de la Place de la République, etc. Bon, des grilles, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un aussi qui rentrait dans le détail du dessin des objets les plus ordinaires de la rue, mais qui faisait aussi la renommée des travaux haussmanniens.
Oui, donc Daviaud, il travaillait déjà au sein de l'administration parisienne à l'arrivée d'Alphand, et il était un architecte qui était très apprécié par ses dessins des chalets. Donc c'est comme ça qu'il arrive à l'administration des promenades et plantations, et c'est là qu'on lui confie la réalisation de tous ces mobiliers. Alors ces mobiliers, je trouve qu'il est extraordinaire, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il n'est pas du tout homogène. C'est vraiment une variation sur modèle, Jean-Pierre Dantec. Et c'est-à-dire, je vous invite à regarder vraiment de près toutes les grilles des squares, et vous verrez qu'il y a toujours un détail qui singularise cet espace. Alors, mes préférées sont celles du square Louvois, parce qu'elles sont comme une espèce de gerbe qui va accueillir un jardin.
Dans son grand livre « La rue et l'immeuble », François Loyer donne des dessins justement de tout ce mobilier urbain de cette époque haussmannienne, et on voit que c'est tout à fait différent. Enfin, c'est un catalogue, d'accord, mais enfin, il y a quand même beaucoup de choix. Je précise quand même que Barillet-Deschamps meurt avant 50 ans. Il est invité à se rendre au Caire pour faire un grand jardin, et il attrape une maladie pulmonaire. Bon. De la même manière, Joseph Lafourcade va réaliser un grand parc à Tunis. Donc on voit aussi que ces spécialistes haussmanniens sont repérés comme étant talentueux. Jean Darcel, alors lui, on le connaît un peu moins, mais il a fondé l'école d'arboriculture de la ville de Paris à Saint-Mandé.
Alors Jean Darcel, en fait, c'est toute une histoire d'amitié et détestation peut-être avec Alphand. C'est un peu compliqué même d'arriver à les saisir dans les archives. Jean Darcel est un ingénieur des ponts et chaussées. Il travaille lui aussi déjà dans l'administration municipale. C'est un spécialiste des ponts. C'est un ingénieur des ponts et chaussées extrêmement doué. Et finalement, il est entre les premiers collaborateurs d'Alphand. Et c'est lui qui, en 1867, hérite la direction du service des promenades et plantations, et qui la garde jusqu'au début, disons, de la Troisième République. Alors, c'est un ingénieur qui se prête tout de suite à travailler sur ces chantiers qui, comme du reste, c'est le cas d'Alphand, sont un chantier qui, après, c'est très inusuel, inhabituel pour un ingénieur des ponts et chaussées, c'est-à-dire les dessins des jardins. Et lui, il en fera aussi un métier plus plié vers la pédagogie, parce qu'en fait, Darcel, il enseignera l'art des jardins à l'école Dubreuil, en lien avec l'école Dubreuil, disons. Et après, il sera le titulaire de la première chaire d'architecture des jardins et des serres à l'école d'horticulture de Versailles, qui est l'ancêtre de l'actuelle école de paysage.
Alors, on ne va pas évoquer tout votre livre, qui est une très grande richesse, mais vous évoquez bien sûr la commission des embellissements de Paris avec Henri Siméon, tous ceux qui précèdent, j'allais dire, cette équipe-là. Alors, il y a un point que vous détaillez pas assez, à mon avis, donc je vais vous poser la question, parce que je suis très curieux. Nous sommes en 1858, 1859, et Alphand reçoit trois courriers d'Andrew Gwynne, et il reçoit ensuite la visite d'Olmsted. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qu'ils se racontent. Je ne vous demande pas ce qu'ils ont déjeuné ensemble, mais qu'est-ce qu'ils se racontent.
Mais déjà, ça a été une surprise de trouver ces trois lettres, parce qu'elles sont dans un dossier qui s'appelle « Affaire Alphand », donc c'est un dossier d'une affaire dans laquelle Alphand a été impliqué. Et pour démontrer son honorabilité, Alphand, il produit tout un tas de documents qui montrent comment son projet ou son avis est demandé ailleurs dans le monde. Et donc, il y a ces trois lettres qui concernent les Central Park, donc les projets de Central Park. Mais malheureusement, la trouvaille a été magnifique, mais elle n'a pas eu de suite, c'est-à-dire que je suis allée chercher partout, même dans les témoignages d'Homestead, et on sait que Homestead, il arrive à Paris, il va à la Muette, donc là où il y avait les bureaux du service des promenades et plantations, et il est adressé par les services d'Alphand à un chef de service. Ce qui veut dire, à cette époque, à mon avis, à Darcel. Et donc, je ne pense pas qu'ils... peut-être qu'ils se sont rencontrés, mais de façon très fugace. Alphand est déjà un homme très important. Il dirige la plus grande administration d'ingénieurs du pays. Certainement, je pense qu'il a été adressé à Darcel, lequel Darcel l'a certainement accompagné visiter le bois de Boulogne. Je pense qu'ils se sont beaucoup parlé de technique, parce que Darcel, il avait dirigé lui aussi ses chantiers. Et je sais aussi qu'il y a un manuscrit qui fait les points sur toute l'évolution du chantier du bois de Boulogne, qui sera envoyé par la suite à New York. Et à New York, il sera traduit pour devenir un élément de référence, un texte de référence pour les projets de Central Park. Donc il y a un rapport, mais je ne suis pas arrivée à définir jusqu'à quel point strict ou serré entre ces personnages. Je pense, connaissant un peu Alphand, je pense qu'il ne s'est pas trop prêté à répondre à des questions de cet Américain. D'ailleurs, Alphand ne parlait aucune langue qui n'était pas le français, donc je vois
et
mal.
Et puis, Homestead débutait. Enfin, je veux dire,
oui, exactement.
Et si Alphand ne lisait pas l'anglais, il n'avait pas lu ses livres sur le sud des États-Unis, donc, puisqu'il se voulait journaliste au départ, Homestead. Bon, bref, votre livre, alors là, je suis tout meurtri, j'allais dire, tout déçu, de ne pas pouvoir vous questionner davantage, parce que je voulais qu'on visite ensemble le Luxembourg, l'Observatoire, le Parc Montsouris, les Buttes-Chaumont, etc. Mais le temps passe. Donc, deux dernières questions. Une sur les arbres d'alignement.
Oui.
Parce que quand même, sous sa direction, il y en a 45 000 de plantés, ce qui aboutira à peu près à 100 000 individus. Et vous indiquez des marronniers, des platanes, des érables, des acacias, des polonias. Et puis, le corset tuteur.
Oui.
Alors ça, c'est bien. Ça, c'est une invention...
C'est une invention de l'équipe. Donc, c'est une invention déjà, les corsets tuteurs est dessiné par Davio. Il y en a deux modèles, donc ils sont expérimentés tous les deux, les corsets tuteurs que nous connaissons encore aujourd'hui et les corsets tuteurs crinoline, qui fait un peu comme si c'était la jupe d'une dame de l'époque. Alors, c'est des outils qui sont inventés avec les bancs de tout l'autre mobilier urbain pour protéger les arbres. Et donc l'idée, c'est protéger la croissance de l'arbre, les protéger des chocs de voitures, les protéger de l'attaque des enfants, par exemple, qui selon quelques botanistes de l'époque, sont les pires ennemis des jeunes arbres. Mais disons, ces corsets tuteurs qui définit la ville est aussi une écriture esthétique qui se marie avec le mobilier.
Alors, il y a la guerre de 70... Il y a la commune, donc il n'est pas communard, ça ne fait aucun doute. Il y a la guerre de 70, où, là, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, malheureusement, le couple Castor et Pollux est assassiné. Vous pouvez nous en dire un mot, quand même c'est un couple d'éléphants. Je dis ça pour Roger.
Oui.
En fait, c'est un boucher, restaurateur qui va les acheter et qui va les faire cuire. Bon.
Alors, j'avoue que c'est l'un des chapitres que je me suis plus amusée à étudier.
Bah oui.
C'est celui du Paris pendant les sièges et ensuite la commune. Pas naturellement pour les événements dramatiques, mais pour la dimension qui n'est jamais évoquée de la transformation de l'espace de loisirs en espace de guerre. C'est-à-dire comment on transforme les jardins pour stocker les animaux, pour parquer les animaux, pardon, plutôt, et pour faire des jardins de production, etc. Et après, il y a toute la question des animaux. Donc, il y avait beaucoup d'animaux dans les jardins d'acclimatation, comme dans les jardins des plantes. Mais Paris a faim. Et donc, on commence à tuer. D'abord, on tue les animaux qui arrivent de l'extérieur de Paris. Donc, ce sont des bœufs, des animaux qu'on peut normalement qu'on mange. Mais par la suite, il faut manger ce qu'on ne serait pas porté à manger. Les chiens, les chats et même les animaux de la ménagerie. Et les deux derniers seront Castor et Pollux, donc les éléphants du jardin d'acclimatation et après des plantes, qui avaient fait la joie des temps d'enfants. Mais il faudra les sacrifier.
Alors, il est aussi connu et renommé pour les promenades de Paris, 96 fascicules, je ne rentre pas dans le détail de tout ça, réunis en deux volumes en 1873, tirés à 1650 exemplaires. J'ai regardé hier sur Internet, on peut l'acquérir pour 7475 € en édition originale des deux tomes. Ça a eu une importance considérable, ces promenades de Paris.
Oui, je pense que l'une des dimensions importantes à souligner de la carrière d'Alphin est cette aptitude à la communication. Alphin, il se fait de la publicité, en fait. C'est un grand publicitaire de lui-même. Donc, il publie pendant que les chantiers avancent ce qu'on fait à Paris, en donnant aussi tous les détails techniques, façon que ce livre ne soit pas qu'un livre pour les amateurs des jardins, même si c'est tout à fait le but en partie, mais aussi pour tous ceux qui voudraient s'inspirer de Paris. Donc il crée son propre modèle, en fait. Il devient le modèle des autres.
Et alors, vous n'évoquez pas trop, mais parce que peut-être que ce n'est pas le but de votre travail, l'aspect personnel, privé d'Adolphe Alphin. Je ne dis pas qu'il est désincarné, mais on ne voit pas si c'est un homme enjoué ou bien calculateur, casanier ou séducteur, mondain ou pas. Je ne sais pas s'il a bien aimé les poèmes d'Haussmann et puis le traité de l'orchidée qu'Haussmann a écrit. Ou il les a lus ou...
Alors l'idée pour moi, c'était de faire une biographie paysagère, donc de parler de ces chantiers des promenades des plantations, parler bien de la carrière d'Alphin. Ce qui a impliqué des choix un peu cornéliens. Et pour l'archiviste, l'historien que je suis, c'est terrible de s'extraire des archives pour n'aller plus en profondeur parce que c'est vraiment pas le sujet. Donc, je sais que pour étudier Alphin, il faudrait encore regarder beaucoup d'archives. La chose qui m'intéresse beaucoup, par exemple, qui m'intéresserait beaucoup, c'est ses rapports avec tout son milieu politique. Qui lui a assuré
parce qu'il a été député, enfin, on n'a pas eu le temps de rentrer
voilà, en détail. Et certainement, il a eu des protections très importantes, hein, parce qu'il a survécu avec grande facilité.
Il rencontrait l'empereur ou...
Ah oui, il l'a rencontré parce que j'ai trouvé des lettres d'invitation aux séries de Compiègne. Donc ça veut dire qu'il était dans un cercle très très proche aux ministres, à la cour impériale, etc. Sur sa personnalité, je n'ai pas trop d'informations, malheureusement.
Ben merci beaucoup.
Merci à vous.
Urbanité, le sujet qui fâche.
La nuit urbaine est-elle un autre jour ? Cette chanson de Bernard Lavilliers appartient au passé. et surtout évoque un quartier chaud de la capitale qui vivait principalement la nuit, Pigalle. Or, les trafics, la prostitution, les cabarets, le milieu, tout ce que Louis Chevalier a si bien décrit dans ses ouvrages sur la nuit parisienne, n'existe plus. L'évolution de la société, les transformations de la capitale, l'explosion du numérique avec la cyberpornographie font que la nuit a changé depuis que Lavilliers l'a chanté. Luc Diavinsky, géographe, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse, vous êtes connu et reconnu comme le principal explorateur de la nuit urbaine, le fondateur de la géographie noctambulesque, auteur de très nombreux ouvrages sur cette thématique, comme « La nuit dernière, frontières de la ville » ou bien encore « La ville 24 heures sur 24 ». Vous venez de publier un collectif intitulé « Nights to Days », regard croisé sur les nouveaux visages de la nuit aux éditions grenobloises Elia. Roger Darmoni, artiste plasticien, ingénieur électronicien, vous êtes à l'origine de la notion et du métier de concepteur lumière, tout comme vous êtes un des premiers à promouvoir une écologie nocturne. Vous avez signé plus de 200 mises en lumière de villes et de paysages en France et dans le monde, dont la Chine. Les éclairages des villes vers un urbanisme nocturne a été publié chez Infolio en 2012 et présente un certain nombre de ses réalisations. Luc, en quoi consistent les Night Studies ?
D'abord, merci pour la présentation et très heureux d'être là en présence ou même si c'est à distance de Roger Narboni. Je crois qu'on a essayé de parler de Night Studies par rapport à cette dimension particulière des villes qui jusqu'à présent, jusqu'à une vingtaine d'années à peu près, peut-être un peu moins même, était une dimension oubliée de la ville. Fonctionnait comme si les villes était là 16 heures sur 24 et cette dimension nocturne était laissée un petit peu de côté. Et sous l'effet de la lumière, de cette colonisation de la nuit par l'économie, par les activités, par aussi des formes nouvelles de culture, il y a une espèce de grignotage de ce temps qui fait que la nuit comme un temps d'arrêt est resté un temps et un temps de plus en plus réduit. On a vu émerger des activités nouvelles, de l'événementiel, mais aussi des conflits entre la ville qui travaille, la ville qui s'amuse, la ville qui essaye de dormir. Et par rapport à ça, côté recherche, on a vu de ci, de là, en France, en Italie, au Canada également, enfin, dans un certain nombre de pays, on a vu des chercheurs de disciplines nouvelles, enfin pas disciplines nouvelles, mais avec cet angle d'attaque qui est l'intérêt porté à cette notion de la nuit, donc que ce soit en anthropologie, que ce soit dans les études de médias, dans l'urbanisme beaucoup, dans la géographie, dans la philosophie d'une certaine façon. Thierry Paco a participé à l'émergence de ces études de la nuit, de ce champ un petit peu de la nuit, et il nous semblait qu'aujourd'hui, c'est un ouvrage collectif qui a été écrit à l'issue d'un séminaire bien avant la crise sanitaire, mais qu'aujourd'hui, il y avait un intérêt à rendre visible ce champ d'études qui est en train de monter, qui peut-être, en tout cas on en fait l'hypothèse, se structure, mais aussi de participer d'une certaine façon à cette mise à l'agenda de la nuit et aussi d'un sujet qui vous est cher, qui est la question des politiques temporelles, c'est-à-dire la capacité qu'on a à penser la nuit comme un système complexe et la ville, pardon, comme un système complexe, pas simplement dans ses espaces, mais aussi dans ses temporalités, dans sa chronotopie. Voilà. Donc ce livre, il arrive à un moment donné où convergent un certain nombre d'études, où des villes au-delà du marketing de la nuit, s'intéresse, lance des études, à un moment aussi où les politiques publiques, derrière lesquelles qu'on a essayé de, je pense à Roger notamment, de pousser vers ces politiques de la nuit et pas simplement sur l'éclairage, ben, se sont intéressés à travers les réseaux de transport de nuit, à travers peut-être l'aménagement, pas suffisamment, mais les espaces publics, à travers l'événement à travers la question de l'égalité d'accès à la nuit pour la moitié de l'humanité, que sont les femmes, puisqu'il y a une inégalité d'accès. Voilà, donc on voit que la nuit est toujours abordée d'un point de vue négatif. C'est d'ailleurs étonnant de voir cette nuit qui est un non-8, un no-hôté, un no-8, comme 8 heures qui sont qui sont exclus et toujours encore perçus presque d'un point de vue moral. C'est pour ça que le pouvoir, de mon point de vue, a toujours cherché à la contrôler. C'est quelque chose qui échappe un peu, peut-être à la modernité, on en discutera peut-être, mais qui échappe à la raison du jour. Et donc, on a envie de contrôler, les pouvoirs publics ont envie de contrôler. Et je pense que le rôle du chercheur, géographe ou autre, c'est d'essayer de poser les choses, de voir un petit peu comment s'organise cette ville, quelles sont les pratiques, qu'est-ce qui s'y passe, comment elle évolue, avec un intérêt, mon point de vue, important. C'est-à-dire que la nuit, contrairement à un certain nombre de domaines comme les politiques temporelles, la nuit, comme ces questions de temps, ça appartient à tout le monde et à personne. C'est de la compétence de tout le monde et de personne. Alors, Roger a posé les bases d'un urbanisme de la nuit, surtout lumière, peut-être un urbanisme de la nuit, du temps, qui est en train d'émerger, mais pour l'instant, c'est la compétence de tout le monde et de personne. Ça oblige au partenariat. Alors, le partenariat, tout le monde dit qu'il veut en faire, mais avec des difficultés à le mettre en place. Et puis, ça convoque, je pense, une dimension sensible. Peut-être que dans la nuit, on échappe en partie à la raison du jour, même si c'est cher la nuit, pour celles et ceux qui ont envie d'y consommer. Mais en tout cas, dans la nuit, on est enveloppé. La vue n'est plus prépondérante. Donc, il y a d'autres sens. Les poètes disent qu'on est enveloppé par la nuit. Et donc, il y a une approche sensible. La nuit nous permet peut-être ce pas de côté, cette flânerie nocturne nous permet peut-être ce pas de côté qui convoque autre chose que des questions techniques, économiques, mais qui convoque le corps dans l'espace public notamment.
Alors justement, Roger, tu évoques l'identité nocturne d'une ville. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette formule très belle ?
Identité avec des S peut-être, hein, nocturne aussi. Je pense que si on remonte un peu dans le temps, vers la fin des années 80, et après les lois de décentralisation qui ont donné le pouvoir au maire de gérer l'éclairage public et de le repenser, de le rénover, il y a eu une quête d'identité nocturne des villes, à la fois, bon, sans rentrer dans les détails, mais à la fois pour attirer les investisseurs, pour faire du marketing urbain, pour se positionner à l'échelle européenne ou mondiale. Ça existe toujours aujourd'hui. Et donc, une des questions qui nous était posée à l'époque, et notamment au moment de la célébration du bicentenaire de la Révolution française, donc quand ce métier de concepteur lumière a émergé, c'était peut-on imaginer une ou des identités nocturnes ? C'est-à-dire, finalement, quel regard on peut porter sur la ville la nuit et quelle image elle peut transmettre ? Sachant qu'il faut peut-être préciser ou rappeler pour certains que la nuit, nous sommes dans un autre système visuel. Notre système de vision qui est adapté à la nuit n'est pas du tout le même que celui de jour. On bascule au moment du coucher du soleil et du lever du soleil. On passe donc en vision nocturne ou scotopique. Et donc, tout ce qu'on va imaginer pour cette ville nocturne ne sera pas vu de la même manière. Notre regard va gommer énormément de choses. Au contraire, on va pouvoir souligner, et c'est ce qu'on faisait à l'époque avec la lumière, avec ce qu'on appelait les illuminations patrimoniales, on va pouvoir souligner des éléments clés et on va pouvoir finalement créer une signature lumière. Donc ce qu'on cherche depuis très longtemps, c'est effectivement comment donner une image nocturne différente de l'image du jour, donc, ou des images différentes de celles du jour, et qu'est-ce qu'on peut finalement transmettre. Mais moi, ce qui m'a intéressé très tôt, c'est aussi l'échelle du piéton, l'échelle du regard au niveau de l'humain. Donc, pas seulement imaginer des villes visibles de loin, cartes postales. À l'époque, il n'y avait pas les drones, donc on n'avait pas des magnifiques images aériennes. Mais plutôt de combiner cette relation entre les ambiances urbaines de proximité, les ambiances qu'on crée pour les piétons, pour les usagers, et effectivement, quelques éléments clés ou des éléments de paysage. En Chine, on a beaucoup travaillé sur des paysages monumentaux à des échelles très très grandes de nuit, et avec cette combinaison finalement créer ces identités. Avec quand même depuis très longtemps, et même si aujourd'hui c'est redevenu à la mode et j'en suis bien content, une recherche d'équilibre entre l'obscurité et la lumière. Et si on a mis au point, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, une méthodologie qu'on a appelée trame noire, qui consiste à réinventer un peu la présence de l'obscurité en ville. Pour moi, dès le départ, dès les premières études qu'on a menées vers la fin des années 80, c'était la recherche de cet équilibre entre obscurité et lumière, et qui aujourd'hui se confirme avec la préservation de la biodiversité.
Donc il faut parfois éteindre.
Il faut souvent éteindre. Et en tout cas, il faut déjà repenser tous les mauvais éclairages qu'on traîne depuis la fin des années 60 pour certains, après-guerre même pour d'autres. Quand on se promène un peu dans les villes la nuit, que ce soit en France ou dans le monde, c'est quasiment de l'archéologie ou de l'anthropologie de l'éclairage. Donc c'est passionnant. Et je pense que oui, il faut éteindre. Il faut en tout cas trouver des équilibres et créer des méthodes de préservation, de sauvegarde de l'obscurité. Et par contre, sanctuariser les activités nocturnes, qu'elles soient de travail, de loisirs, tout ce qu'a évoqué Luc, avec qui je suis totalement d'accord. Sanctuariser ces activités nocturnes pour créer des ambiances agréables.
Et justement, Luc, cette idée d'une ville 24 heures sur 24, est-ce qu'elle n'est pas discutable d'un point de vue social, parce que j'en avais parlé à l'époque, il y a très longtemps, lorsque la Datar avait imaginé présentait la ville 24h24 comme un progrès terrible, je m'étais dit oui, c'est bien pour les nantis, mais dans les soutes de la ville, il y a tous ceux qui bossent pour que les autres profitent de la nuit blanche, pour prendre l'expression d'Arthur Rimbaud.
On est d'accord, je crois, Thierry, sur ces risques. Moi, j'avais écrit un bouquin il y a quelques années qui s'appelait « La ville 24 heures sur 24, point d'interrogation » et l'éditeur avait enlevé le point d'interrogation. pourquoi j'avais regardé cette ville 24 heures sur 24 ? Parce que, de fait, bon, je souhaitais qu'on pose un regard, je l'ai expliqué tout à l'heure, un regard sur la ville 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur les saisons, sur ces approches-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je voyais bien que ce phénomène de colonisation, c'est-à-dire cet espace et ce temps qui étaient peu à peu grignotés, la fin du couvre-feu médiatique, la lumière, l'activité, les salariés, c'est une augmentation du nombre de salariés la nuit. On est en Europe 15-18% des salariés, donc je ne parle pas des indépendants et autres. Donc il y a ce phénomène de colonisation qui peut aller vers ce que les anglo-saxons appellent 24 hours. C'est autour des fameuses 24 heures et voire du 7 jours sur 7. Donc ça participe d'un phénomène général de grignotage, de colonisation des pauses, le dimanche, le week-end, la pause de midi. Je ne parle pas de la sieste dont tu as fait un ouvrage et l'éloge. Mais donc ça participe dans cette mondialisation n'est pas qu'une mondialisation de l'espace, c'est aussi une mondialisation des temps, une mise en connexion, tout ça. Une fois qu'on a dit ça, la figure de la ville 24 heures sur 24, elle peut être par moment un élément du marketing d'une ville, c'est-à-dire de mettre en avant effectivement qu'il y a des quartiers ouverts, parce que c'est vrai que pouvoir arriver dans une ville après 22 heures et avoir la possibilité d'accéder à un certain nombre de services, ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi le pire d'un point de vue haïssable, c'est-à-dire le fait que d'une certaine façon, il y a une partie de la population qui serait là, ces soutiers de la nuit, je crois que c'est le terme qui vient d'être utilisé, qui seraient là pour qu'on puisse profiter tranquillement, nous, d'un usage, j'allais dire, ludique ou festif de la ville. Il faut quand même. Moi, je crois que ce qui est important, c'est pour ça que je, depuis des années, Roger aussi, toi aussi d'ailleurs, Thierry, on pose cette question du temps et de la nuit, c'est-à-dire que comment on peut faire pour le mettre à l'agenda des politiques publiques et comment on peut faire pour que ce ne soit pas le marché qui décide. Parce que d'une certaine façon, si on l'est, on a vu avec la décentralisation, on voit petit à petit, elle est grignotée cette nuit. Alors aujourd'hui, il y a la Covid, mais avant la Covid, qui remet tout en question d'une certaine façon, elle était devenue centre commercial, elle était aussi par endroit aseptisé, elle était contrôlée, elle était sécurisée. Et cette évolution, je vais juste donner un élément important, me semble-t-il, dans les études américaines, c'est toujours les études américaines, mais j'en ai pas sur la France actuellement, on voit que travailler la nuit, notamment dans l'alternance jour-nuit, c'est 5 ans d'espérance de vie en moins. Donc faire ce choix d'ouvrir la ville, ça, évidemment la ville 24/24, ça nécessite qu'on ait un débat public et qui soit éclairé, entre guillemets, par un certain nombre de données. Je pense que notre rôle, d'où l'importance d'avoir des scientifiques de différents domaines qui sont capables d'éclairer la nuit sans la tuer, sans la transformer en algorithme et ainsi de suite. Donc ça, c'est assez important. Et tout à l'heure, Roger Narbonnier a apporté une nuance, quelque chose qui me semble important, c'est le jusqu'où ne pas. C'est-à-dire que la nuit nous amène à une réflexion qui n'est pas une réflexion du tout ouvert, tout fermé, mais une réflexion, moi j'avais intitulé ça dans un ouvrage suite à un colloque de Cérisy, je crois, une pensée nuitale, c'est-à-dire, et j'utilise toujours une formule liée à la lumière, c'est-à-dire que sans lumière, pas de vie de la nuit, mais trop de lumière tue la nuit. Donc comment on est capable, localement, parce que pour l'instant la DATAR avait lancé une réflexion sur temps et territoire dans lequel on a inscrit cette réflexion sur la nuit, mais pour l'instant, la question de la nuit n'est pas posée au niveau national. Donc comment on peut l'inscrire et quelle scène, quel dispositif, quel lieu de dialogue et d'échange, alors ça peut être les bureaux du temps, ça peut, on peut mettre en place. Aujourd'hui, il y a des conseils de la nuit, c'est-à-dire où tous les acteurs économiques, sociaux, culturels partagent des données, vraiment, partagent des données, éclaire la nuit, toujours cette vision du jour vers la nuit, éclaire la nuit, et à partir de là, des ajustements qui sont faits entre les uns et les autres. Et pour que peut-être les auditeurs comprennent la difficulté de cette chose-là, je vais prendre un exemple, moi, qui m'est arrivé lorsque je dirigeais la Maison du Temps et de la Mobilité sur du côté de Belfort. On avait à l'époque de grosses entreprises, notamment de l'automobile, qui étaient passés dans une production 24 heures sur 24 pour optimiser leurs moyens de production. Ils étaient dans les logiques de plateforme, donc on est entre Mulhouse et Sochaux, et qui ont commencé à développer le travail d'été, alors que ça fermait, le travail du dimanche, et surtout le travail de nuit. Et on s'est retrouvé avec des parents d'enfants, souvent des femmes célibataires, parfois des hommes, qui venaient nous voir et qui disaient « Bon, c'est une certaine question du temps, la nuit, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et pourquoi ? Parce que moi, je n'ai pas de travail, et la seule possibilité qui m'est offerte, c'est de travailler la nuit. Or, pour pouvoir accéder à ce travail de nuit avec mes enfants, il faudrait que je trouve une crèche qui ait de la solidarité. Or, la solidarité de proximité familiale pour la garde de l'enfant, c'est devenu quelque chose de compliqué. Donc, ils interpellaient les collectivités locales sur la mise en place, pourquoi pas, de crèches de nuit. Il y a eu des essais à Lyon, il y en avait en Finlande et ailleurs. Et là, on a eu un débat avec les syndicats, les politiques, les entreprises et autres. Et la décision qui a été prise, au final, c'est de ne pas mettre en place de crèches de nuit. Et la position des syndicats était très forte. C'était de dire, on n'est pas là pour valider le temps en continu de l'entreprise. Parce que si on ouvre des crèches de nuit, alors on va se retrouver avec une espèce d'appel d'air. Le résultat de tout ça, c'est qu'on a vu circuler dans la ville, souvent des femmes, hein, toujours cette question d'inégalité, mais souvent des femmes avec enfants en soirée, avec l'enfant sur le vélo, dans le siège plastique derrière, pour l'amener chez une hypothétique grand-mère, un ami, pour pouvoir accéder à cet emploi de nuit. Donc, il ne s'agit pas d'ouvrir les vannes de la ville 24 heures sur 24, parfois on a été mal compris, mais se dire une ville, ça tourne de plus en plus 24 heures sur 24, plus elle est internationale, plus elle est dans la continuité, et que face au temps continu de l'économie et des marchés, il faut mettre en place des lieux de dialogue et d'échange où on peut discuter et faire le choix. Soit on remet un bonnet de nuit sur nos villes, soit on ouvre et on ouvre jusqu'où. Parce que la nuit, elle est devenue symbolique de ça. Il y a eu les nuits blanches, festives et autres, qui ont montré qu'on pouvait avoir une approche pas seulement sécuritaire de la ville, qui ont permis d'ouvrir les transports, qui ont permis de tester des gymnases ouverts un petit peu plus tard le soir et autres. Et puis il y a aussi, Roger Narbonnier l'a bien rappelé, il y a aussi des nuits noires, on a fait ça à Grenoble, ça se développe dans pas mal de villes, où on éteint la lumière et on réapprend à circuler avec moins de lumière, peut-être moins violente, peut-être moins d'éclairage public et peut-être un éclairage privé ou qui suffit finalement pour circuler dans la ville. Donc peut-être que la machine qu'on doit imaginer, c'est une machine qui soit capable, une machine politique, vous parliez d'écologie temporelle, je crois, une machine politique, des lieux où on peut discuter de tout ça en toute sérénité. Il y avait des conseils de nuit, on riait il y a quelques années sur les maires de nuit. C'est là, c'est là, et c'est possible, mais il n'y a rien au national.
Alors justement, là, tu poses la question de la mondialisation. D'une certaine façon, hein, la nuit urbaine devient un enjeu, et on va l'éclairer, et Roger va nous expliquer comment ça se passe en Chine ou en Amérique latine. Mais est-ce que le sentiment de la nuit urbaine est partagé d'une manière mondiale, ou est-ce que ça concerne que des catégories socioprofessionnelles particulières, celles qui sont dans le mouvement de la mondialisation économique?
C'est sûr qu'il y a des nuits urbaines. Il y a, selon son milieu social, selon les pays, selon son niveau de ressources, selon si on travaille de nuit ou pas. Quand on se promène dans le monde entier, ce qui est mon cas, moi, j'ai visité énormément de villes, et surtout de nuit d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'encourage les auditeurs à d'abord visiter une ville de nuit et ensuite la voir de jour quand on ne la connaît pas, parce que c'est une révélation. Le regard qu'on va porter sur la ville de nuit, si c'est le premier regard, il est passionnant, parce qu'il n'est pas pollué par la mémoire ou par l'idée qu'on a déjà de cette ville. Et donc, c'est un exercice vraiment très, très encourageant. Oui, c'est sûr que selon les pays, surtout dans les villes qui deviennent des mégalopoles, qui sont tentaculaires, il y a des catégories sociales qui ne voient pas la nuit de la même manière, pour qui c'est une contrainte, pour qui c'est subi, pour qui déjà trouver un endroit où dormir, c'est une difficulté. Et on ne peut pas, comme on le fait malheureusement trop souvent, associer la nuit urbaine à la fête, aux loisirs, aux plaisirs. Bien sûr qu'il y a cette part-là, mais elle est quand même minoritaire. C'est aussi un territoire, la nuit, parce que souvent on parle de territoire. C'est un territoire où tout est possible, mais aussi tous les dangers sont présents. Et évidemment, c'est ce qu'on constate en Chine. On essaye de sécuriser la nuit urbaine. Après, culturellement, il y a des populations qui adorent sortir tard, vivre tard, ne serait-ce qu'en Europe. Les Espagnols vont dîner vers 22 heures. Et donc, forcément, à l'époque hivernale et automnale, il fait nuit. Et donc, quand ils rentrent chez eux, il fait vraiment déjà une nuit avancée. Donc, il y a aussi cette question des latitudes. Quand on vit dans le nord de l'Europe ou dans les pays dans lesquels il y a les nuits polaires, évidemment, le rapport à la nuit est totalement différent. Moi, ce que j'ai apprécié en Chine, c'est que l'espace public est véritablement mis à disposition des gens, parce que les conditions de logement sont tellement difficiles et les espaces sont tellement petits que finalement, l'espace public est l'espace aussi de rencontre, de sociabilisation, de récréation. Y compris pour les personnes âgées et très âgées, elles sortent dehors pour faire du tai chi la nuit, elles vont danser, chanter en groupe avec des amis, ils jouent au mahjong, et l'espace public nocturne est vraiment un lieu fabuleux. Et donc imaginer de la lumière et des ambiances pour ces espaces-là, au lieu d'être baigné dans une lumière orangée sinistre, c'était pour nous une vraie chance. Donc le travail aussi par rapport aux cultures locales. Effectivement, tu parlais de l'Amérique du Sud. On a eu la chance de travailler à São Paulo. On a fait une étude de schéma directeur d'aménagement lumière, à Medellín aussi. C'est des approches totalement différentes, parce que le rapport à la nuit, il est aussi passionnant. Je me souviens qu'à Medellín, il y avait à la fois une population hyper pauvre en plein centre-ville. C'est le centre qui est pauvre. Et puis les barrios, les bidonvilles qui sont sur les parties hautes, très très difficiles d'accès, malgré les téléphériques qui ont été créés, qui ont permis de révolutionner l'appropriation de la ville. Quand on se promenait là-haut de nuit, on était tout seul dans les barrios. Il n'y avait personne qui se promenait de nuit. Alors qu'en centre-ville, qui était très très paupérisé, il y avait énormément de monde qui s'y promenait. Et donc ces contrastes sont passionnants. Donc cette géographie de la nuit que Luc connaît bien, c'est vraiment passionnant, parce que pendant longtemps, on s'est rendu compte, nous, depuis qu'on travaille comme concepteur lumière, que finalement, il y a une corrélation entre développement économique et qualité de l'éclairage et éclairage. Et que quand on regarde les images satellites des villes la nuit, on voit très bien les pays pauvres, on voit très bien les endroits où, effectivement, il y a des richesses accumulées. Et pour donner ne serait-ce qu'un chiffre, à Paris, on a un point lumineux, donc un candélabre urbain pour 10 personnes. À Bamako, capitale du Mali, c'est un candélabre pour 140 personnes. Donc on comprend bien aussi que l'éclairage peut être aussi révélateur de la pauvreté.
Merci beaucoup, Luc et Roger. J'ai une question pour Chiara Santini, puisqu'elle est là, on a cette chance. Est-ce que les parcs et jardins, à l'époque d'Haussmann, étaient parfois éclairés la nuit ?
À l'époque d'Haussmann, il y a, si je ne me trompe pas, les seuls cas du square des arts et métiers. Alors, les problèmes de l'éclairage de la nuit, c'est un problème qui est très lié à la santé des arbres, parce que l'éclairage se faisait au gaz, et donc les conduites des gaz ne devaient pas risquer avec des fuites d'abîmer et de faire mourir tous les arbres. Donc on évite de mettre de l'éclairage dans les jardins pour cette raison. Et avec le développement des systèmes de stabilisation des conduites et des systèmes aussi d'éclairage public, petit à petit, à la Troisième République, on verra des jardins qui s'éclairent toute la nuit et même beaucoup de pétitions d'habitants qui demandent d'avoir des jardins éclairés. C'est le cas de Butchemont, c'est le cas du square des Batignolles, c'est le cas de beaucoup d'autres squares avec tout un système, une géographie de la nuit qui va toucher aussi l'organisation même de la police des parcs et jardins, parce que bon, il y a des populations, des vêtements, des lieux qu'il faut fréquenter, des lieux qui sont plus dangereux.
Si j'ai bien noté, le seul parc public parisien ouvert la nuit, c'est celui de la Villette.
Actuellement, ouais. aujourd'hui je pense oui.
Tout à fait, oui. Alors, et les bois. Bois de Boulogne, le bois de Vincennes.
Et bois de Boulogne, bois de Vincennes.
Mais depuis leur création, les bois de Boulogne, par exemple, ils ferment à 22h30, 23h, pour permettre aux gens qui sortaient du théâtre d'aller fréquenter les restaurants du bois de Boulogne. Donc c'est aussi des pratiques sociales qui se stabilisent au Second Empire.
Bah, écoutez, merci beaucoup. Je rappellerai juste un texte que j'ai trouvé très, très intéressant, qui a été publié dans le livre de la Pléiade consacré à la géographie générale en 1966. Il est signé par le célèbre géographe Pierre Desfontaines et s'intitule « Introduction à une géographie du sommeil et de la nuit ». Alors, en le lisant, pour préparer cette émission, je me suis aperçu à quel point il expliquait qu'il fallait partir à la conquête de la nuit et que la nuit était plus belle que le jour. Merci beaucoup. Voici un nocturne par l'inventeur, le pianiste et musicien irlandais John Field, au début du 19e siècle. Évidemment, cette musique va être consacrée par Frédéric Chopin.
Urbanité. Une émission en partenariat avec Terre Urbaine à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.